Bonjour et bienvenue pour le 270e numéro de Comic Stories, un numéro dans lequel nous allons sérieusement nous poser la question de passer ou non à la VO, si oui pourquoi et surtout comment. Est-ce que la VO coûte vraiment plus cher que la VF? Pourquoi certains parmi nous font ce choix en ce moment? On a pas mal de raisons derrière tout ça. On va en parler ensemble et après on terminera par quelques petites chroniques sur des titres qui nous ont marqués récemment. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 270e numéro de Comic Stories. Si je m'occupe du scénario de ce numéro, j'ai deux artistes avec moi, un duo d'anthologie, j'ai envie de dire, puisque nous avons les deux Anto de l'équipe. Anthony,
bonsoir ou bonjour.
Et salut à tous.
Et puis un invité pour cette émission, Boris.
Bonsoir tout le monde.
Boris qui est en plein dans la même problématique, en tout cas que moi en ce moment, puisque toi aussi je crois que t'es en train de passer en full VO.
C'est ça.
Donc on aura le temps d'en discuter. Assez largement dans notre main event donc de ce numéro, qui est donc le débat VS versus VO. Est-ce que 2018 va rebattre les cartes? Parce qu'on verra que 2018 risque d'amener pas mal de changements dans les formats VF, surtout en kiosque. Et puis on verra ensemble pourquoi on choisit un peu de passer à la VO, pourquoi on boude la VF, et quel format nous allons finalement choisir, puisque il y a peut-être aussi la question du numérique à se poser. Et puis en guise de tie-in, on terminera par quelques titres, notamment du Secret Empire, Royal City, dont Antonin va nous parler, et puis quelques autres trucs. Je vais donc laisser la parole à Anthony pour lancer les hostilités du débat du Main Event, avec Anthony, un petit retour rapide sur quelque chose de typiquement français. Alors peut-être que les États-Unis nous l'envient, je ne sais pas. Le fameux format kiosque.
Ouais, le fameux format kiosque. Alors très rapidement, on va partir de Panini, puisque Urban, c'est beaucoup plus récent. Donc Panini, ça démarre en 97 avec Marvel France. Ils vont récupérer le catalogue de Scénic. Ils vont pondre des séries, cette fois thématiques, et regrouper notamment des groupes de personnages ou des titres d'équipe au sein de même sommaire. Le truc intéressant aussi, c'est que lorsque Panini arrive, il ne renumérote pas tous les numéros qu'éditait Scénic, puisque par exemple Serval, qui était au numéro 43 ou 44, bah Panini va continuer avec le Wolverine, du coup 44 ou 45, je ne me souviens plus. Voilà, c'est, quand on regarde un peu la situation d'aujourd'hui, ça fait sourire.
C'est assez ironique. Ouais.
Donc, en 97, on a ces mags-là, donc c'est, quand on compare globalement à ce qui se fait aujourd'hui, c'est un petit peu hasardeux. C'est vrai que la qualité des kiosques, quand même, s'est améliorée. Ensuite, bah, l'historique est le suivant, donc on a ces kiosques thématiques, donc principalement du Avengers, du Spider-Man et du X-Men, principalement. On a une première refonte, on va dire, en 2001 avec l'arrivée de nouveaux kiosques, notamment la première version du Marvel Heroes. Ensuite, on a les apparitions des kiosques, cette fois de type Marvel Icons, Marvel Heroes V2, qui eux vont durer très longtemps, puisque ça va marquer en gros toute la période Bendis. Sur les Avengers. De même, le kiosque Spider-Man va durer presque 150 numéros avant d'être renuméroté. On arrive finalement à l'apogée du cinéma, à peu près en 2011, où Panini va finalement calquer le modèle cinéma à des kiosques. C'est un peu particulier dit comme ça, mais vous allez comprendre, puisqu'en fait, on quitte les titres de type Icons et Heroes pour arriver sur des titres, cette fois liés à des personnages. Donc, du Iron Man, un kiosque Iron Man, un kiosque Avengers et un kiosque Thor, donc qui est la suite spirituelle du Marvel Stars. Et à partir en fait de ce 2011, c'est à peu près par là que je voulais commencer, plus que l'historique historique, on va dire. On va enchaîner une succession de relaunch qui vont avec eux entraîner une augmentation continuelle de la pagination, puisque là où on était à 4 épisodes, nous sommes aujourd'hui entre 5 et 6 épisodes. pour des kiosques dont le prix est passé de 4,50 à 4,9 € et 4,8 € pour la période Marvel Now, donc 2012-2013, qui sont aujourd'hui à 5,90 et qui, c'est le, donc voilà, l'historique a été très rapide, mais bon, toutes ces informations sont disponibles sur le net, donc le but n'était pas de faire une chronologie, mais vraiment d'amener le débat, puisqu'aujourd'hui, si on se renseigne un peu sur les précos, notamment sur des sites marchands sur le net, pour ne pas les citer, on se rend compte que les prix affichés sont à 6,90 et que la pagination n'a pas augmenté. C'est-à-dire qu'on est autour de 6 épisodes sur le sommaire, avec en moyenne 2 épisodes par série, ou 1, ou 3, voilà, pas plus.
Et donc, 6,90 pour les hors-série et 6,50 voilà. Pour les numéros.
Et donc, ce dont je voulais parler, c'était là aussi les hors-série, donc qui ont toujours existé à la marge de ces Marvel Icons, de ces Vengeurs, de ces Spider-Man, de ces Iron Man, mais qui aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils prennent une autre dimension, puisque Panini n'hésite pas à publier de grosses sagas en hors-série. Très récemment, on a eu le Unworthy Thor, qui aurait pu être très clairement destiné à de la librairie et qui va forcément ressortir, mais qui a été d'abord pensé pour du kiosque. Donc là, ça, pour le coup, c'est une très bonne direction qu'a pris Panini. On a prochainement le futur Spider-Man 2, donc qui, sans discuter de la qualité, est quand même un gros nom et a un gros passif derrière lui. Donc de ce côté-là, voilà, c'est quelque chose aussi sur lequel on reviendra, mais c'est un bon choix et un choix osé qu'a fait Panini et qui je pense est payant. Donc le débat en fait, c'est finalement, est-ce que aujourd'hui le sommaire qui se trouve être généreux, mais qui est corrélé à une augmentation du prix continuelle, puisqu'on est quand même, on a quand même gagné près de 3 € par rapport au prix initiaux. Est-ce que selon vous, ça justifie encore d'acheter des kiosques? Et est-ce que le kiosque qui, est-ce que vous, selon vous, le format kiosque est voué à continuer ou malheureusement à s'effacer peut-être devant ou la librairie VF ou peut-être le choix le plus pertinent, la librairie VO.
Et puis si on veut continuer sur Panini et se projeter un peu sur 2018, on a donc un relaunch qui arrive au mois de juillet avec cette fameuse augmentation de prix dont on vient de parler.
Donc le Marvel Legacy.
Mais n'oublions pas que Marvel nous prépare pour le début de l'été son fameux Fresh Start qui risque d'amener un nouveau relaunch en décembre, janvier, en France.
Tu penses si tôt que ça?
On a à peu près 6-7 mois de décalage, donc si les choses commencent en juin...
Oui, puisque la période Legacy se termine déjà en VO, effectivement.
Voilà, donc potentiellement, ça veut dire qu'on pourrait peut-être se taper 2 relaunchs en l'espace de 6 ou 7 mois, quoi.
Ouais.
Donc, voilà, c'est peut-être aussi un vrai problème. Et puis en face, on a Urban, qui lui propose une offre beaucoup moins pléthorique, avec un sommaire parfois discutable, des magazines certes de grande qualité par rapport à ceux de Panini.
Oui.
Mais on sait que Urban, voilà, le format kiosque, c'est pas forcément quelque chose qu'ils affectionnent, et... Bon.
Disons que Urban, là où l'exemple le plus frappant, c'est le cas Aquaman récemment pour la série Rebirth, qui a notamment été pensé là aussi dans une optique de saga complète. Donc eux, ils appellent ça des sagas complètes. Donc pourquoi pas? C'est l'équivalent des hors-séries Panini, où ils nous ont publié, alors il me semble, l'équivalent du premier arc. Donc
oui,
ce format très intéressant qui, là, quoi qu'on en dise, le format hors-série, qu'il soit Marvel, donc Panini ou DC Urban, reste le plus intéressant. Ce format-là, c'est indiscutable. Par contre, ce qui l'est beaucoup plus, c'est que ils nous ont d'abord publié ce premier arc en kiosque, puis, sans doute sous l'impulsion de ventes trop faibles, on fait totalement marche arrière, puisqu'on se retrouve avec une double publication du premier arc d'Aquaman en librairie maintenant, et la série va continuer sur ces sorties de librairie uniquement. Donc là aussi, c'est globalement un témoin et peut-être un présage de ce qu'envisage Urban, alors plus ou moins moyen terme, je pense. Voilà.
Et puis cette histoire d'Aquaman, c'est aussi le fait que les personnes qui ont acheté ce kiosque doivent racheter le même matériel, puisque le tome 1 en librairie contient déjà l'arc déjà sorti en kiosque. Bref.
C'est ça. Plus l'arc d'après.
C'est une autre affaire. Antonin, tiens, tu lis quoi, toi, VF ou VO?
J'ai tendance à. Je lis de moins en moins de kiosques, en fait. C'est vraiment par là que je suis venu dans les comics. C'est ce qui m'a fait démarrer quand j'étais petit et c'est ce qui m'a fait continuer parce qu'il y avait toujours ce côté en plus par rapport à une BD le prix est quand même moindre et se dire que tous les mois en argent de poche c'est ça à l'époque ça arrive même autour de 5 euros c'était quelque chose qu'on pouvait se faire. Donc en fait, quand on est jeune, ça fonctionne bien comme ça. Puis après, en grandissant, on lit de plus en plus de choses et du coup, la question après peut se poser. Donc moi, c'est vrai que sur les kiosques VF, j'en lis de moins en moins. Notamment, on parlait du nombre de titres qu'il y avait dans un même comics.
Magazine, ouais.
Ouais. Et en fait, moi, le souci, c'est que des fois, en fait, on est inondé de titres, ce qui peut être sympa, mais je m'y retrouve pas. Finalement, il va y avoir peut-être qu'une ou deux séries que je vais suivre dans tout le magazine. Et du coup, c'est vrai que la VF, je la suis de moins en moins. Alors, en fait, je vais m'y mettre quand il va y avoir des événements. Typiquement, là, le Secret Empires. Donc là, je m'y remets. S'il y a du hors-série, là, je m'y retrouve aussi. Et pour tout le reste, c'est vrai que je lâche de plus en plus.
Ouais. Alors toi, Boris, tu es en ce moment en train sur Internet, sur les réseaux sociaux, d'expliquer pourquoi toi tu passes progressivement à la VO, pourquoi tu as fait ce choix. Est-ce que le kiosque et le format qui finalement ne semble plus nous satisfaire, est-ce que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles toi tu choisis de passer en VO?
Ben écoute, déjà pour en revenir tout à l'heure à l'histoire d'Urban Comics avec l'histoire d'Aquaman, j'ai déjà eu le souci avec, je sais que c'était à l'époque des kiosques Urban Universe, où ouais. On avait sorti un hors-série sur Superman avec l'histoire Lois et Clark, où on narre plus ou moins le retour du Superman de l'ancien univers, donc pré-Flashpoint. Et c'est marrant parce que du coup j'ai racheté dans la foulée sa version librairie, donc avec deux ou trois chapitres supplémentaires, donc comme quoi on pense acheter quelque chose d'un peu de plus ou moins exclusif et adapté au format hors-série. Et en fait, Urban le réédite quasiment derrière. Donc,
oui, ça a été hyper mal géré, ce Superman-là, parce qu'il y avait effectivement cette espèce de... Il y avait quoi, 5 ou 6 épisodes de la mini-série dans le kiosque hors-série, et après, les deux ou trois autres avaient été mis dans deux kiosques différents, des Justice League Univers ou un truc comme ça.
C'est ça, ouais. Donc ouais, c'est un peu particulier la gestion des kiosques chez Urban. Maintenant, je vous rejoins sur le côté hors-série, qui pour moi est vraiment le meilleur format. Donc comme on en parlait tout à l'heure, Unwarsitor, c'est une mini-série de 5 numéros en VO, donc c'est plus que convenu pour le format kiosque hors-série chez Panini. Bizarrement, l'offre kiosque Panini est pas mauvaise, je trouve qu'elle est plutôt bien articulée. Celle d'Urban laisse malheureusement un peu à désirer. Et comme j'ai tendance à l'expliquer malheureusement sur Internet, moi dans les kiosques je me retrouve pas parce qu'en général il va y avoir une série ou deux séries que je vais suivre assidûment et puis le reste ne m'intéresse pas spécialement.
Oui, on les lit parce que...
C'est ça.
Voilà, je les lis histoire de me dire je les ai lus, mais sans grande conviction. Bon, après des fois ça peut amener à quelques bonnes surprises, mais c'est quand même relativement rare.
Ça permet de découvrir deux, trois autres produits, deux, trois autres trucs, bon.
En fait, c'est ça. Du coup, moi aussi, sur le kiosque, c'est vrai que je rejoins l'avis précédent sur le Urban, qui sont où les sommaires sont, alors, je trouve bien construits, mais pas assez généreux en termes de découverte, puisque c'est très sécurisé. Leurs publications, voilà, prennent pas beaucoup de risques en kiosque. Maintenant, je trouve que, comme toujours, la qualité des kiosques Urban est nettement supérieure à celle de Panini. Maintenant, sur les kiosques Panini en eux-mêmes, c'est vrai que cette augmentation-là de 6 épisodes à 6,90, là où à l'époque, par exemple, toute la période Marvel Now et la période All New Marvel Now, où on avait 5 épisodes pour 5,90, voire 6 épisodes pour 5,90. Disons que si pour à partir de deux séries, le kiosque devenait intéressant, voire même pour une série, le kiosque devenait intéressant, contrairement à une sortie TPB. Maintenant, 6 épisodes pour 6,90, sachant qu'il faut entre 2 et 3 kiosques pour être équivalent à un TPB, qui est aujourd'hui à 15 euros. Si vous faites le calcul, vous vous rendez compte que on se rapproche de plus en plus de l'équivalent tarifaire. En plus de ça, le kiosque, il a cet avantage qui finalement en devient... C'est l'avantage qui se mord la queue finalement, puisque ces sommaires qui gonflent, on se retrouve avec des séries qu'on n'a pas toujours envie de lire, qui viennent gâcher le plaisir des séries qu'on a effectivement envie de lire. Enfin, moi, c'est par exemple le cas sur le kiosque Avengers Universe, qui compile aujourd'hui notamment la série Thor de Jason Aaron, sauf que je suis obligé de me lire l'USA Avenger de Ali Wing, qui entre nous n'est pas terrible. Et le problème, il est là, en fait, c'est que le fait d'augmenter la pagination des kiosques et la quantité d'épisodes, entraîne une dépréciation de l'avis qu'on a sur les séries qu'on a vraiment envie de lire. Donc c'est un peu dommage. Les prix commencent à être équivalents entre la série kiosque et la série TPB, sachant que la série TPB sort 6 mois avant. Donc c'est vrai que les sorties mensuelles Panini vont peut-être dépérir au fur et à mesure. Et comme le disaient Antonin et Boris, c'est vrai que le kiosque s'adresse finalement peut-être à des lecteurs peu expérimentés qui ont envie de piocher par-ci par-là. Alors que je pense qu'ici qu'on a plusieurs années de lecture, alors Marvel d'ici ou autre chose, et qu'on sait globalement ce qui nous plaît, ce qui va nous plaire même à l'avance. Alors des fois il y a des surprises, mais c'est vrai que dans cette optique-là, le kiosque est peut-être moins pertinent.
Ouais, moi le kiosque, il y a un autre truc qui m'embête maintenant dans ce format, c'est la place. Oui. Parce que finalement, pour lire deux séries sur 5 dans un mag, ça prend une place folle, alors que 3 TP, c'est barré, quoi. Ouais. Et au final, il y a un moment où le côté pragmatique aussi l'emporte chez moi, c'est-à-dire que pour que tout tienne bien dans mes boîtes et dans mes rayons, faut que j'arrête un peu les conneries et il faut que je prenne vraiment les séries qui me plaisent et que j'arrête de perdre bêtement de la place dans les étagères, et puis surtout d'avoir dans mes étagères des Spider-Man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, non.
Mais ça, c'est pas forcément de maintenant, parce que tu prends notamment le Avengers, la version, alors je me semble que c'est la version 2 ou 3, qui était sortie pour la croisade des enfants, il y a 6 numéros par exemple, et ça remonte déjà à quelques années, donc c'est pas nouveau, mais c'est vrai que ça a tendance à s'accélérer aujourd'hui, mais ça c'est dû au mode de publication de Marvel qui s'étale sur un an, voire un an et demi. Qu'est-ce qu'on peut vraiment blâmer Panini pour ça?
Ils sont pas obligés de suivre, hein. Ils peuvent continuer leur numérotation comme ils ont envie. C'est pas parce que Marvel fait un relaunch que eux sont obligés derrière de suivre et de bêtement faire un numéro 1 tous les ans, et encore bien parfois plus souvent.
C'est la fameuse quête du nouveau lecteur qui tient plus de la quête annexe que de la quête principale, puisqu'on se rend compte que ça marche pas trop en fait, que le nouveau lecteur n'arrive pas.
C'est comme ceux qui vont voir les films qui vont se mettre à lire des BD, il paraît.
Voilà, oui. Disons que tu sors de ta séance, tu vas chercher un bouquin, mais tu reviendras pas le mois d'après.
Non, évidemment. Donc il y a un mois, j'ai perdu j'ai perdu mon fil. Bon, c'est pas grave, tant pis.
Après, l'autre exemple, par exemple, ce serait ce que va faire Urban sur le futur, enfin, même plus futur, le tout prochain Dark Knight Metal, où là ils font carrément le choix d'une sortie uniquement librairie. Donc moi ça me frustre pas mal, parce que j'aurais bien aimé avoir mon hors-série ou ma série dédiée Dark Knight Metal en kiosque.
Surtout que faire un mag metal, c'était hyper simple, quoi, vu le rythme de parution du truc et la construction par rapport au tie-in et tout ça. C'était limite du pré-mâché.
Ça s'y prêtait complètement, ouais.
Oui. Donc, après... Toi, tu pensais carrément qu'il pouvait sortir un Dark Knight Metal
Oui, un magazine metal, oui.
Mais qu'est-ce que tu mettais dedans, en plus des metal?
Il y a largement de quoi faire. Il y a franchement un nombre de tie-in.
Forcément renseigné, d'accord.
Avec tous les Batman, les méchants Batman là, de ce fameux univers du Dark Multiverse.
Oui, il dispose pas mal de mini-séries qui sont déjà annexes.
Mini-séries aussi. Après, il y avait les préludes aussi, avec The Forge et l'autre dont j'arrive jamais à me rappeler.
Le casting.
Voilà. il y avait moyen de faire un petit mag en 6-7 numéros comme ça, bien, comme ils avaient fait avec Before Watchmen au final, un peu. C'est Before Watchmen, mais l'exemple aurait pu être utilisé. Quitte à même réutiliser le procédé, certes un peu kitsch, de la couverture métallisée qui a été utilisée sur les singles de la série principale.
Ouais, mais ça fait partie du truc aussi, tu vois, tu te sors une variante, un truc spécifique.
L'objet aussi, on achète aussi des comics, c'est aussi pour l'objet.
Les collections, c'est sûr.
C'est aussi pour l'objet, et c'est peut-être aussi pour ça, remarquez la transition, qu'on passe progressivement chacun à la VO, c'est aussi pour l'objet, parce que les mags c'est bien, c'est pas cher, mais c'est un peu dégueulasse.
Ouais.
Et il serait propre.
Il y a des mags propres, ceux qui ont le dos noir dans vos étagères, ils sont plutôt propres ceux-là, par contre ceux qui ont de couleur, ils sont un peu moins propres.
Ouais.
Je peux dire aussi par rapport à Urban, je me demande vraiment s'ils ont la volonté de continuer leur kiosque.
Oh non,
parce que je me rends compte petit à petit que quasiment la totalité même de leurs publications sort quasiment en même temps en librairie.
Ouais.
Et je vois peu l'intérêt pour un lecteur de continuer à acheter un kiosque pour lire quelque chose qu'il aurait pu boucler le soir même et qui va devoir attendre un mois, voire deux pour terminer.
Si je peux répondre à ça, Par exemple, je prends le cas du kiosque Batman puisque c'est le seul que j'achète régulièrement. Les deux autres, je vais les acheter ponctuellement s'il y a là, par exemple, pour Superman Reborn, je vais acheter Justice League. Mais pour le Mac Batman, je suis la série Batman, je suis la série Detective Comics et je suis All-Star Batman. Donc, répercuter ça en librairie, ça me revient plus cher. Et le fait de revenir tous les mois, ça me fidélise et j'ai cette sensation d'aller chercher comme si j'allais chercher mon single tous les mois. Maintenant, c'est vrai que voilà, un bel album librairie, ça, il n'y a pas photo, quoi.
En même temps, je veux dire, si on avait que des numéros de qualité dans chaque magazine, la question, elle se poserait même pas. Je veux dire, c'est le rapport qualité-prix quand même. Enfin, quantité-prix, en tout cas, il est quand même vachement intéressant.
Ouais,
Si,
quantité prix.
ouais,
Bah,
là,
c'est
sa
sûr que moi,
quantité,
prendre un
je suis
mag
obligé
avec
de
All-Star
grappiller.
Batman de Snyder et puis le Batman de King, bon, bah ouais, ça m'intéresse moins, oui, c'est sûr.
Ça pour lequel?
Le mag Batman Rebirth.
Oui, mais pour quelle série entre les deux?
Ah, bah les deux, enfin, même si
Oh,
le Batman de King a
salaud!
le Batman de King a tendance à s'améliorer, ça je le reconnais volontiers, hein, autant voilà, je pouvais le critiquer très vertement dans ses débuts. Bon, bah là, voilà, ce qui commence à arriver en VF commence à devenir pas mal, et ce qui sort en ce moment en VO est déjà de meilleure facture. Ça, c'est clair. Mais bon, quand
Le
on voit les
numéro
premiers
20 de Batman est un chef-d'œuvre.
Oui. Quand on voit les premiers numéros du magazine, voilà, on se tape deux numéros par King, un numéro oversize de All-Star par Snyder, enfin, c'est juste du grand n'importe quoi. Bah, derrière, il nous reste Detective Comics et Nightwing pour pleurer, quoi. Donc
Ouais,
bah oui,
c'est sûr.
effectivement, la question de la composition, si on n'avait que des grandes séries, bah ouais, peut-être qu'effectivement on se poserait moins la question. C'est vrai.
Donc oui, le format kiosque, vraiment chez Panini va vraiment être remis en question. Alors les deux d'ailleurs ne pourront pas arrêter du jour au lendemain, mais le premier à passer, et ce serait d'ailleurs un message assez fort, hein, envoyé, si on peut appeler ça, à l'industrie du milieu, que l'un des deux, et potentiellement Urban avant, arrête totalement le kiosque. Alors quelles seraient les conséquences, je sais pas trop, mais ce serait en tout cas assez fort d'envoyer ça comme message, ouais.
Alors, on a bien compris, le kiosque ne nous satisfait plus. Question de sommaire, question de prix, question voilà, de relaunch à répétition, etc. Ok, très bien. Mais est-ce que c'est la seule raison qui nous fait penser ou voir carrément passer le cap de passer à la VO? Parce que moi, il y a vraiment la raison de l'objet. Enfin, l'objet single en VO a quand même
Ah bah oui, clairement, là on est plus dans un aspect,
presque
c'est bête de dire
affectif.
ça comme ça, mais ça, oui, c'est un aspect de collection. C'est même si c'est un tout petit format, bon, souvent voilà, on l'appelle le PQ, mais on a notre petit bout de papier imprimé de 20 pages. Enfin, moi, je sais pas, j'ai l'impression de lire véritablement un comics
Ouais.
et d'avoir quelque chose de valeur entre les mains.
Totalement d'accord.
Ouais. Bah, je pense, enfin, je sais pas vous, mais moi, si je regarde ma collection, si je prends des comics qui sont sous blister, ça va être des comics, c'est de la VO. En VF, j'en ai, mais Panini, tout ça, ça finit pas sous blister. Donc, je pense que le côté collection, c'est vrai qu'il se prête encore plus, je trouve, sur de la VO. Hein.
Avec des belles couvertures de tous les numéros sur voilà, qu'on n'a pas non plus forcément dans les publications françaises. Voilà, chaque numéro a sa cover. Les vrais collectionneurs peuvent même prendre le même numéro en plusieurs exemplaires juste à cause de la couverture. Et je plaide tout à fait coupable. Je fais partie de ces gens-là. Voilà.
Oui.
Voilà, oui, des Doomsday Clock, je suis capable de les acheter en deux éditions. Oui, pas de problème. Juste pour l'objet. Donc oui, on est un peu. Alors on se plaint des prix des kiosques VF qui augmentent, mais en même temps, on est quand même capable d'aller acheter le même numéro en deux exemplaires différents pour une couverture.
Mais si tu achètes ton numéro dans double couverture, le numéro en lui-même, tes 22 pages, tu vas les apprécier pour ces 22 pages. Acheter un kiosque, lire tes 128 maintenant, il me semble, pages, et en apprécier 22 sur 128, même si ça revient moins cher ou équivalent ou un poil plus cher, donc globalement maintenant on est sur de l'équivalent, dans ta tête, ça fout les boules, quoi.
C'est
Ouais, c'est
sûr.
sûr, vu comme ça, ouais.
C'est
En fait,
sûr.
moi, c'est surtout ça, moi, qui me.
Non, et puis après, c'est surtout j'en avais parlé aussi avec pas mal d'amis dans la semaine, et c'est une question de choix. Moi, je sais que, par exemple, historiquement, je suis un gros fan de Green Lantern, et Green Lantern, chez Urban, ça a été
Compliqué.
plus ou moins laissé à l'abandon quand ils ont arrêté les kiosques Green Lantern Saga. Une publication librairie assez difficile finalement parce que à part nous ressortir les Geoff Johns présentes deux fois, bah on n'a rien eu de nouveau à se mettre sous la dent. Moi, j'ai commencé du coup à me tourner. Alors, à l'époque, quand je me suis mis à la VO, Rebirth pointait le bout de son nez aux US. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de sauter sur tout ce qui était Green Lantern pour pouvoir continuer à apprécier l'univers de Green Lantern sans forcément être comment dire, filtré par Urban. Donc, comme je le dis, Panini a tendance à moins filtrer, à offrir un peu plus de choix. Urban centre beaucoup toute son offre autour de Batman parce que bah, c'est un peu la poule aux œufs d'or de DC Comics. Donc forcément, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils se mouillent pas trop au niveau de ça. Ils savent très bien que du Batman, ça se vendra toujours. Pour les lecteurs qui, bah, par exemple, pour ceux qui lisaient du Superman en kiosque, ça a été un cauchemar lorsque Urban a annoncé la sortie d'un kiosque Suicide Squad Rebirth, c'est pas de
Ah oui,
Superman
d'abord.
Rebirth, qui pourtant avait largement la place avec des séries comme Superwoman, avec des séries comme Action Comics, l'excellente série Superman par Thomasy et Gleeson.
Et du
Enfin,
Super Sons,
c'est
pourquoi pas même.
Super Sons également, oui, qui est une excellente série en plus. Et donc
Je comprends toujours
je
pas.
comprends pas trop, ouais. Et c'est vrai que de ce côté-là, bah, on avait beaucoup plus de choix sur l'offre VO. Donc certes, ça revient un peu plus cher, surtout que DC a décidé d'augmenter son rythme de parution pour que ce soit quelque chose de bimensuel, donc deux numéros par mois. Donc forcément, on va payer, nous ici, 3 euros le numéro. Donc ça nous revient à 6 euros par mois par série. Et en même temps, du côté de chez Marvel, on paye déjà 5 à 6 euros un numéro, mais c'est un gros numéro mensuel, on n'en est pas à 22 pages. Mais ouais, alors on a cette satisfaction du choix. Alors moi, c'est pareil, maintenant, avec quelques années de lecture, j'ai tendance à aller vers tel ou tel scénariste. Donc je sais pour moi que, par exemple, un Jeff Lemire, j'aurais tendance à facilement me jeter dedans.
T'as entendu, Antonin? Regarde.
Oui,
Attention,
d'ailleurs,
attention, attention.
j'ai pas encore eu le temps de lire, mais sa nouvelle série indépendante, où il a
Guidance.
reformé son duo. Ouais, c'est ça, où il a reformé son duo avec Sorrentino. Donc, j'ai pas encore eu
Attention aux
l'occasion de le lire, mais j'ai quand
extraordinaires
même
X-Men, quand
hâte.
même. Hein.
Ouais.
On fait tous des erreurs.
On n'est pas parfait tout le temps, c'est vrai.
Non, mais oui, après, voilà, il y a ce choix d'auteur aussi, et suivre un auteur et avoir toutes ses parutions et les avoir toutes dans le même format, finalement. On n'est pas dépendant des éditeurs VF qui vont sortir bah, des recueils en grand format, d'autres des recueils en petit format, les deux vont pas être pareils, etc. Alors, au moins, on a tout dans notre petite pochette, on peut se faire notre petit bac Jeff Lemire, et voilà, c'est très bien.
Est-ce que pour vous, le fait qu'il y ait de plus en plus de sorties librairies
Ouais.
VF n'a pas aussi un impact sur du kiosque? Je me pose la question parce que je me dis en fait le choix aussi, on a de plus en plus de lectures aussi sur de la librairie.
Oui.
Est-ce que, enfin moi je sais que j'ai tendance, à une période je lisais beaucoup plus de VO et maintenant en fait je sais que j'ai les numéros, la plupart, alors ils vont sortir en décalé, mais ils finissent par arriver quasiment tous. Et il y a ce côté-là aussi à me dire, bon bah de toute façon en fait je l'aurai en VF librairie quoi.
Bah, je suis d'accord dans le sens où Delcourt, par exemple, ou Glénat, ou encore plus récemment Bliss Comics, ne proposent pas du tout d'offre kiosque. Et en fait, je pense que les lecteurs, avec le temps, c'est pas qu'ils se lassent pas, qu'ils se lassent de DC ou de Marvel, mais ils ont tendance à, par curiosité, à aller commencer à découvrir un peu d'autres choses. Et c'est vrai que bah, quand on se penche du côté de l'offre librairie, on a beaucoup plus de choix en termes de lecture que si on se contentait des kiosques de Panini Urban, quoi.
C'est vrai qu'avec un petit peu de décalage par rapport aux USA, on est en train de découvrir en France, hein, le lecteur français non connaisseur de la VO, etc., est en train de découvrir ces dernières années que bah ouais, il n'y a pas que DC, il n'y a pas que Marvel, il y a plein de petits trucs qui se passent à côté et qui sont souvent aussi bien, voire meilleurs.
Oh.
Comment ça?
Non, mais c'est vrai
Attention
que
quand
ça
même.
part en puissance, hein. Et c'est ce qui me fait que il y a de ça, ouais, je pense, 2, 3 ans. De la VO, enfin j'ai les Image Comics, j'en lisais ni peu ni assez en VO. Et en fait, bon après ils finissaient par sortir en VF. J'aimais bien avoir mon album VF aussi relié et tout. Du coup, je le prenais et petit à petit, ben je me suis mis à moins consommer la VO justement avec derrière dans l'idée de le prendre en VF quand il sort en VF, quoi.
Donc au final, toi, Antonin, tu es presque en train de faire le chemin inverse de nous. C'est-à-dire que nous, on passe progressivement en tout VO et toi, tu passes progressivement non
Sur
pas en tout
l'indé.
VO, mais en tout librairie.
Ouais, c'est ça. Oui, sur l'indé, c'est sûr. C'est essentiellement sur l'indé, ouais.
Parce qu'à limite, l'indé, je suis un peu. Bon, l'indé, c'est vrai que j'ai. Bon, pour revenir sur ce que tu disais sur le nombre de publications VF, enfin, moi, j'arrive plus à suivre du tout. Enfin, entre iComics, Valiant, Image, Delcourt qui ressort des trucs de cinglés comme Oblivion Song. Ils ont sorti quoi? Ils ont sorti la dernière de Brubaker, Killer Be Killed. Voilà. Enfin, c'est vraiment Glénat. Bon, Glénat c'est trop cher, mais ils sortent quand même des super titres. C'est vraiment, vraiment compliqué. Enfin, Snorgle. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Donc, c'est vrai que sur l'indé, attendre la VF, c'est pas forcément un mauvais choix. Maintenant, moi, j'ai un peu du mal avec les formats très, très grands. J'aime bien ce format un peu petit des TPB VO. Bon, ça, c'est une question de goût. Donc, pour l'indé, je suis un peu indifférent. Maintenant, le décalage de 6 mois, il est beaucoup plus dommageable sur les Big Two, puisque bon, on est censé être dans un univers partagé qui avance, et malheureusement, c'est la course au spoil, quoi. Donc, essayer d'être dans la course VO, entre guillemets, c'est le mieux, quoi. Donc, t'as aussi ce problème-là avec le kiosque, et en plus, la librairie qui sort, alors maintenant, ou plus ou moins en même temps chez Urban, ou 3 mois, voire beaucoup plus chez Panini. Donc, les Big Two en VF, c'est encore, il y a encore ce problème-là qui, enfin ce problème, cette discussion-là qui vient se rajouter dessus, qu'il n'y a pas en indé, par exemple.
Ouais. Problème épineux quand même que de se décider, là. Puisqu'au final, passer tout VO, passer tout VF.
Après, il y a aussi si tu veux lire du kiosque, enfin du single papier, t'as aussi le problème de la disponibilité. Bon, même si tout est dispo sur, enfin tout, tu peux tout trouver sur Internet quasiment. Moi j'aime bien aller en boutique, feuilleter, discuter avec le vendeur, et ça malheureusement sur les singles VO c'est, et TPB VO c'est beaucoup plus compliqué, là où la librairie VF, bon bah la moindre
c'est
boutique,
c'est vrai qu'avant d'habiter dans une grande ville dotée d'un comic shop VO, c'est compliqué, voilà,
c'est ça.
Après moi voilà, sur ma ville il n'y a pas de comic shop VO évidemment, mais j'ai quand même mon petit rituel de la fin de mois quand le preview est sorti, d'aller bah, sur Arconia, parce que c'est là que je me fournis, et puis voilà, de faire tout le catalogue et puis de regarder éditeur par éditeur tout ce qui va sortir, les sollicitations, les machins, et c'est aussi un petit rituel quand même qui est important pour moi en tant que lecteur de comics, d'avoir voilà ce preview à éplucher. Il y a même un moment, il n'y a pas si longtemps encore, je commandais le preview dans mes précommandes, et du coup j'avais vraiment le catalogue que je feuilletais comme dans un comic shop, et allez-y, et je faisais mes choix, je notais les pages, etc., et puis après j'avais fait mes précos sur le site. Et il y a aussi ce petit rituel comme ça d'anticiper ses achats, d'être un peu hypé par des sollicitations et de pas avoir le spoil évidemment en permanence par rapport à la sortie VO et la VF qui est décalée, et du coup on sait un peu tout à l'avance, et c'est aussi une des raisons de mon passage en VO, c'est le côté un peu rituel.
Je bois tes paroles. C'est exactement ça.
Et on n'a pas abordé la question du numérique, du coup.
Est-ce qu'il y en a qui lisent en numérique ici?
Très, très peu.
Moi, je lis des romans en numérique, mais c'est vrai que les bouquins imagés en numérique, c'est un peu plus compliqué.
Mais c'est ce qu'on parlait, c'est ce côté collectionneur. Alors, en fait, ça va fonctionner quand il y a des offres, les Humble Bundle. Là, ça devient intéressant. On se dit, bah, ça va, pour pas cher, je vais avoir une bonne quantité, puis je vais me faire un gros kiff. Mais t'as toujours ce côté collection qui reste là. Et
moi, effectivement, j'ai le Humble Bundle que je me prends régulièrement, voilà, notamment les gros bundles Image et compagnie. Ça me permet de découvrir des titres pour presque rien, de manière légale. Et puis, en plus, voilà, ça permet d'aider en plus une bonne cause. Et du coup, ça fait surtout l'occasion de découvrir plein de trucs. Après, moi, je ne lis pas forcément digital, ou en tout cas très peu, tout simplement parce que c'est con, mais c'est des trucs qui m'appartiennent pas. Les trucs de Comixology, etc., c'est pas à moi. Demain, quand Comixology ferme, ben, tout le fric que je leur ai donné, ben, je peux juste pleurer parce que j'ai plus rien.
C'est vrai.
C'est sûr qu'il y a aussi ce côté-là, ouais, carrément.
C'est vrai.
Alors que mes boîtes, bon, bah, sauf s'il y a un énorme dégât des eaux, bon, je pleurerai aussi, mais bon, mes boîtes, elles seront toujours chez moi, quoi, avec mes bouquins dedans.
Ouais, puis ça reste un objet, quoi. C'est, je sais pas, il y a un peu peut-être ce parallèle du vinyle avec la musique, c'est important. Enfin, moi, je prends du plaisir à avoir l'objet entre les mains, quoi.
Bah, sauf quand tu déménages, quoi.
Ouais, on est d'accord, ou alors que t'as fini de remplir une armoire ou une étagère et que tu dis, bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Ouais. Bah, disons que vu les derniers posts sur Instagram notamment, oui, il y en a un qui doit se faire plaisir quand il déménage. Boris.
Ah bon?
Les 169 X-Men, les 69 Marvel Icons.
Non, non, mais c'est un nombre de boîtes hein, qu'il faut compter chez lui. C'est incroyable la photo qu'il a postée là tout à l'heure. Ouais.
Ah non, c'est pas mes boîtes.
Pas tes boîtes?
Voilà, non, c'est pas mes boîtes. C'était un exemple pour citer,
ah oui,
pour
bon,
imager
bon,
un peu mes propos.
Le mec,
non.
il a sa petite pièce avec ses comics et tout ça. Mais...
Non, bah, j'avais ma petite pièce avec mes comics, mais bon, majoritairement, pour l'instant, c'était de la librairie VF, mais tout est en train de changer petit à petit, vu que je passe du coup progressivement au full VO.
Ah bah tu vois, je me suis laissé avoir.
Mais j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien ceci dit avoir beaucoup de box comme ça empilés chez moi. Je pense pas que ça plairait à madame, mais moi en tout cas ça me satisferait vraiment bien.
Est-ce que vous aviez d'autres raisons pour bouder la VF et justifier votre choix de passer en VO?
Je crois qu'on a fait le tour. Hein.
Ouais.
Très ouais, je pense aussi.
Donc voilà, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à nous laisser un petit commentaire, ou même par mail, ou sur nos réseaux sociaux, voilà, à nous dire si vous aussi vous êtes en train de franchir un peu ce pas en ce moment, et pourquoi. Pourquoi vous le faites, et quel va être votre choix de format? Est-ce que vous allez privilégier le single ou le TPB? Parce qu'il y a aussi cette alternative du TPB, voilà, on n'en a pas trop parlé. Mais en tout cas, pour ma part, je vais avoir mes séries fétiches, entre guillemets, que je vais vraiment suivre en single, etc. Ben voilà, les Lemire, les quelques séries d'ici que vraiment m'accrochent, etc. Mais le reste, je vais quand même le suivre, mais en TP et en VO. Je vais pas faire que du single non plus, parce qu'économiquement, il y a un moment... Pff,
oui.
Il faut aussi, voilà, hein, écouter son banquier. Ben, n'hésitez pas à nous dire, vous aussi, voilà, comment vous consommez vos comics, et est-ce que vous êtes aussi en train de changer un petit peu votre manière de faire. En tout cas pour nous, on va interrompre cette discussion pour cette émission, et puis on va passer à des petits tie-in et à quelques petites lectures que nous avons fait récemment. On va laisser Antonin Auchaud quelques minutes encore en attendant son procès. Anthony, toi tu souhaitais nous parler, je crois, du Secret Empire numéro 4 qui est sorti chez Panini en VF. Dis donc, tu lis encore des kiosques
oui.
Cette semaine.
D'ailleurs, pour revenir sur le truc, je me suis rendu compte que lire acheter le TPB Secret Empire revient moins cher que d'acheter tous les kiosques Panini. Oui. Et ça m'aurait évité de me trimballer les tie-in que je ne lis pas d'ailleurs. Mais bon, voilà.
Et puis la galère pour les trouver en kiosque, parce que ces derniers mois, c'est vraiment la merde
ouais.
de trouver les.
Ouais, c'est chiant. Hein. Ça ne sort jamais aux dates. Bon, passons. Bon, en tout cas, Secret Empire, ce numéro 4 est assez excellent, alors que le numéro 3 l'était beaucoup moins. Puis, enfin, entre le numéro 3, le 2 et le 3, puisqu'on avait eu cette espèce d'interlude avec Ultron totalement hétérogène, qui avait, alors, dont je comprenais, entre guillemets, l'intérêt. Et le fil dans l'histoire, mais qui était tellement mal fait, et c'était tellement téléphoné, et c'était parachuté comme ça, que finalement, ça n'avait pas vraiment de sens. Alors que ça aurait pu en avoir si Secret Empire avait été une sorte de nouveau Dark Reign étalé sur un an, voire un an et demi. Ça, c'est pour la petite pique, puisque finalement, ça n'arrivera jamais. En tout cas, voilà, ce Secret Empire 4, qui regroupe donc les numéros... 6, 7 et 8 sont bien meilleurs, puisqu'on quitte un petit peu les délires robotiques pour vraiment se reconcentrer sur le conflit politique avec tout ce que ça comporte, puisque dans un premier temps, eh ben, on va suivre l'attaque qui avait été lancée sur le mont, qui regroupait les derniers membres du réseau. Donc c'est ultra bien écrit, je trouve, entre un Thor qui fait ce qu'il fait parce qu'il se voit contraint de le faire, entre un Hulk qui revient, entre une punchline de cinglé de Captain America qui fait son speech à Bruce Banner, qui est là, on sait pas trop comment d'ailleurs, mais bon, passons, entre Hawkeye qui se sacrifie en voyant Banner, voilà, lisez Civil War 2 pour comprendre pourquoi il y a cette case là voilà, c'est toujours ultra tendu, c'est sublimé par un Lenny Liu qui arrive à vraiment à poser le ton, à poser les enjeux, et je trouve qu'on y croit vraiment beaucoup. Il y a pas mal de désillusions aussi avec Tony Stark bah, qui a tout fait pour préserver l'espoir alors qu'il y avait pas grand chose à préserver finalement. Son dialogue avec Captain America à la fin du numéro 6 est super bien écrit aussi. Donc on redémarre sur des bases vraiment saines. On a la résolution de toute la partie cosmique qui est globalement moins intéressante avec, souvenez-vous, cette histoire de bouclier qui avait enfermé à l'extérieur, donc dans le vide sidéral, le Alpha Flight, donc qui espérait briser ce bouclier pour pouvoir retourner sur Terre et défaire le régime. Évidemment, ils y arrivent. Alors, c'est la solution arrive d'une case à l'autre, voire même d'une page à l'autre. On ne sait pas trop pourquoi. Bon, pourquoi pas. En même temps, il faut bien arriver à Legacy. Donc, bon, c'est un impératif et on le prend comme ça vient. C'est pas trop mal fait non plus. On a une partie beaucoup plus politique qui réunit Black Widow, Spider-Man, Captain America sur les marches du Capitole. Là aussi, se référer à Civil War 2 et à une vision en particulier qui trouve ici un écho dont je tairai l'issue. On a de l'iconisme à mort avec le retour d'un autre Captain America. La reprise d'une scène culte de l'histoire, cette fois de Steve Rogers lorsqu'il est congelé. On a du Doctor Strange qui est ultra badass. On a l'espoir qui renaît avec l'ouverture du dôme. On a un Daredevil, petite remarque, qui est ultra impressionnant sur trois cases dessinées par Lily New et qui l'est beaucoup plus que dans tout le run de Charles Soule. On a un combat Black Widow Punisher là aussi qui est. Alors, j'ai un peu de mal avec l'état d'esprit du Punisher parce que un développement peut-être sur le plus long terme aurait permis de nuancer tout ça. Là, c'est vraiment assez grossier, mais ça marche toujours. Et la fin qui se termine sur l'offensive, la contre-offensive, je dirais même, du réseau et une résolution qui s'amorce sur cette espèce de rêverie qui se trouve être l'enfer. Donc, comprenez le passage où Captain America est barbu et torse nu, qui amorce la fin, qui sera dans le numéro suivant, qu'on avait déjà deviné dès le numéro 2, puisque tous ces passages-là étaient assez clairs. C'est assez malheureux, maintenant, c'est imposé par le statut d'event. Voilà. Mais en tout cas, pour ce que ça vaut et pour ce que ça donne, je trouve que Secret Empire, c'est vraiment de la frappe. C'est assez beau graphiquement, surtout Lenny Liu. Je ne suis pas forcément objectif sur ce dessinateur, mais c'est pas grave. Là où Sorrentino est très efficace, mais pas forcément au meilleur. Et Nick Spencer, vraiment, fait un travail, je trouve, solide, malgré un interlude assez incompréhensible et vraiment en décalé. Voilà, je vous conseille Secret Empire, du coup, en kiosque.
Quelle jolie pirouette par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Bon, Secret Empire, c'est le dernier kiosque que j'achète, moi, pour ma part. Donc, il me reste le 4 que j'ai acheté, mais pas encore lu, et puis le 5, et puis après, ça sera
j'irai peut-être voir le One Shot Legacy, et
je l'ai en VO, donc.
Bon. Ouais, voilà.
Garde ton argent.
D'accord. Ah, mais tu peux pas dire ça. Je le lirai quand même.
Oui, je sais, mais voilà. Tu repenseras et tu diras. D'accord. Ok. Quelqu'un a lu déjà ces épisodes ou pas?
Non, pas encore.
Pas encore.
Moi, pour ma part, j'ai lu le Secret Empire en VO, donc j'ai suivi les numéros. J'ai trouvé qu'il s'essoufflait un peu en longueur. Je pense qu'ils auraient pu réduire de deux numéros.
Ah ouais, encore.
Je suis d'accord avec. Ouais, je pense qu'ils auraient pu réduire, et puis surtout, nous on a le droit à une fausse conclusion, c'est-à-dire que Secret Empire numéro 10, finalement c'était pas vraiment la vraie fin, donc on nous a ressorti derrière un autre one-shot, Secret Empire Omega, qui donnait finalement la conclusion de tout l'event, donc j'ai trouvé un peu Marvel et un peu en deçà sur ce coup-là, mais... L'event en lui-même est dans la continuité de ce que Nick Spencer a fait depuis qu'il est arrivé sur Captain America. Et je suis complètement d'accord, d'ailleurs, ça m'a bien fait rire pour l'histoire du dîner avec
Hank.
Ouais, avec Ultron. Et c'est vrai que j'ai trouvé cet épisode mais totalement inutile au récit. Enfin, pour ma part, hein, j'ai trouvé totalement inutile au récit. On se demandait pourquoi, en fait. Et je me suis dit, bon, bah, ça y est, j'ai payé pour un interlude qui ne me sert vraiment à rien.
Ouais,
pour le coup,
ouais.
J'avais l'impression de me faire un peu avoir sur ce coup-là. Donc, je ne sais pas pourquoi y tirer sur les numéros au final pour ça. Donc, voilà. Mais globalement, l'épisode est très très bon. Enfin, l'event en soi. Une fin peut-être un petit peu un peu en deçà de ce que j'espérais, mais j'ai quand même hâte de voir Nick Spencer, qui a été annoncé en tout cas sur Spider-Man pour succéder à Dan Slott avec le Fresh Start, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner sur un nouveau personnage de l'écurie.
Mais surtout quand, enfin, juste pour faire un petit aparté sur Ultron, enfin le statut du personnage tel qu'il était présenté à la fin de Uncanny Avengers 11 ou 12, je sais plus, de Jerry Duggan, qui était assez excellent, je vous le conseille. Quand on sait maintenant que le prochain event, qui n'arrive pas 18 mois après comme promis, mais 12 mois, se trouve être Infinity War. Et quand on regarde comment était laissé Ultron à la fin de Uncanny Avengers, enfin, il y avait vraiment des trucs à faire avec ce personnage-là et ce que propose maintenant Marvel. Au lieu de le ramener tout bêtement dans Secret Empire, c'est assez con. Mais vraiment, je me prends à rêver d'un Dark Reign plus ou moins moderne sous la gouvernance d'un Captain America sous une période, on va dire, d'un an. Alors, ça aurait été vraiment, vraiment fort et assez osé face à DC qui est dans le souvenir et l'hommage avec notamment le retour des Watchmen. J'aurais vraiment aimé voir ça. Bon, je le verrai jamais, mais.
Bah non, il n'y avait pas de film Captain America, c'est Thanos qui arrive.
Ouais, je trouve que c'est un potentiel immense gâché puisqu'on avait eu une mise en place de cinglé par Spencer sur plus d'un an. On aurait pu avoir ce Secret Empire 0 qui aurait fait foi de révélation à tout un éditorial et puis basculer sur un Dark Reign, mais pas avec Norman Osborn, mais avec le plus grand des héros Marvel. Enfin bon, voilà. Je pourrais faire un article réimaginons Secret Empire, ça serait intéressant.
Vas-y, fais-le. Vas-y, je te valide. Bon oui, Secret Empire, voilà. J'ai quand même hâte de découvrir, redécouvrir, parce que je m'étais un petit peu spoilé la fin en VO. Bon, effectivement, ça va pas forcément être très ambitieux, mais effectivement, il fallait ranger les jouets, laisser la place à Thanos. Voilà, ouais. C'est tout. Antonin, il est l'heure de s'intéresser à ton cas. Puisque tu nous as marqué sur le conducteur que tu voulais te parler de Royal City comme étant une déception. Alors là, explique-toi surtout.
Ouais, déception, je ne sais pas si c'est fort, mais disons que je me suis dit que c'était l'occasion. J'aurais pu parler d'autre chose peut-être plus positive. Après, comme il y a eu beaucoup de retours très positifs, justement. Ah, sur,
chez nous notamment, oui, effectivement.
Ah ouais, ouais, bah, sur notre site, d'un peu de partout, je pense que c'est assez unanime. Et c'est peut-être d'ailleurs ça aussi qui a fait que peut-être une ville à hype qui était trop grosse et je m'attendais peut-être encore à mieux, j'en sais rien. Il y a peut-être, c'est peut-être cet effet-là, mais quoi qu'il en soit, je suis ressorti de cette lecture un petit peu déçu. Il y a une grosse partie, je dois l'avouer, c'est à cause, enfin, c'est les dessins. Et moi, ça m'a. Ah, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal.
Je comprends. En fait. Après, moi, je suis fan du monsieur et je suis fan de ses dessins, donc voilà, mais.
Ouais, avant que j'arrive, parce que en général, quand le trait, on n'a pas l'habitude, on a quand même au bout d'un moment de lecture, on s'y fait. Et moi, ça a pris quand même du temps avant que ça passe, cet effet-là. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi que j'ai pas été, ça m'a pas permis d'entrer complètement dans ma lecture. Je pense que c'est un titre que je relirai, parce que pour leur donner sa chance, ne serait-ce quand le 2 ou la suite sortira en VF. Et j'aurais sans doute moins cet a priori et moins aussi cette hype, parce que de toute façon je partirais du coup avec ce petit côté déçu et du coup le chemin à faire du côté positif sera plus simple. Mais ouais, je pense qu'il y a le fait côté pour ce qui est de l'histoire, parce que bon, c'est quand même à la base c'est quand même un scénariste. Il y a des bonnes choses. J'ai bien, enfin tout ce côté humain il est top. C'est des trucs, c'est ce qui est agréable, qui fait sortir aussi des fois de peut-être du super-héroïque ou ce style-là, et on est sur quelque chose qui est très humain et qui potentiellement moi fonctionne complètement avec moi. Et sur cette lecture j'ai pas eu le déclic, quoi.
Ok, donc voilà. Bon, Anthony, on sait largement ce que tu en as pensé, hein, parce que c'est toi qui t'es chargé de la review, je crois.
Non, c'était Jou.
Ah ok, oui, bon voilà. Bon, bah on sait ce qu'il en a pensé, en tout cas, il a mis une excellente note lui aussi. Toi, tu avais le même avis.
Moi j'avais, j'ai trouvé, après à chaque fois qu'une série indé de l'émire, je suis vraiment rarement déçu. Au pire, j'adore. Donc même si, effectivement, moi, contrairement à Antonin, je vais plutôt me ranger vers du Descender, là où les sagas familiales touchent plus la corde sensible et font vraiment pas chialer, mais voilà, c'est ça. Bon, ça prend au trip. Je préfère le côté space op d'un Descender qui n'oublie pas son lot de sentiments, alors pas mielleux, mais tout ce qu'ils ont de plus juste. Mais Royal City, ce que j'aime bien dans Royal City, ce qui avait déjà un peu en amorce dans par exemple Essex County, c'est tout ce côté presque fantastique, fantasmé de la rêverie et de l'évasion qui rend super bien là, puisque cette fois on a de la couleur, alors que dans Sex County, il n'y en avait pas. Ouais. C'est peut-être les trucs que j'aime le mieux, et c'est incroyable comme cet auteur, en parlant finalement de... Bon, sans être, comment dire, péjoratif, ça parle de rien. Enfin, ça parle à la fois de tout et de rien, ces séries vraiment typiquement indé. Il arrive à te véhiculer toutes sortes de ressentis, d'émotions. Alors, c'est pas perturbant, ni c'est pas un game changer, mais c'est vraiment une lecture intimiste, quoi, à chaque fois.
Ouais, il parle de rien, mais en même temps, il parle de la vie. Et enfin, voilà, juste ça, en fait. C'est... Voilà, il m'a fait pleurer avec Essex County. Il m'a fait pleurer avec Trillium. Il y a de grandes chances qu'il me fasse la même chose avec son Royal City. Il m'a déjà fait frissonner de ouf quand j'ai découvert le gros clin d'œil à Trillium qu'il a fait dès les premières pages du numéro 2.
Oui, oui.
Je me dis, oh, très bon. Quoi ? C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ?
On est dans le même univers.
Même univers enfin... Et en fait, oui, on est dans le même univers au final. Enfin,
oui. Après, mais je pense que tout, elles sont toutes dans le même univers, hein, sans Essex County, il y a trop d'éléments fantastiques pour que ce soit pas dans le même univers.
Voilà, j'ai beaucoup de retard malheureusement sur Real City, mais je serais pas surpris de voir un clin d'œil à Sweet Tooth à un moment ou à un autre aussi.
Mais ce que je peux pas lui enlever dans ce Royal City, c'est des idées. Il y a quand même des super super idées, notamment par rapport à ce personnage qui est mort. Sans en dire plus, le traitement est super. Je trouve, enfin, le traitement est très très bien fait. Mais ouais, je sais pas en fait. C'est juste que j'ai pas été dedans. Je pense que ça mérite une deuxième lecture. Mais ouais, en tout cas, cette idée, ce traitement du personnage est vraiment top, je trouve.
Boris, tu l'as dit, toi, t'es fan de l'émir, donc Royal City, ça a dû marcher.
J'ai pas encore eu l'occasion de le lire. J'ai un peu de retard avec le côté indé et VF. Donc là, j'ai essayé de rattraper un peu. Enfin, j'ai essayé de prendre au vol déjà avec Gideon Falls pour pouvoir commencer à le suivre en VO.
Parce que les séries tu en lis en VF aussi, enfin, des séries indies, du coup, tu lis aussi de la VF.
Après, je lis principalement du mainstream et du super-héroïque. Un petit peu moins d'indé, mais c'est en train de changer petit à petit. L'émir, je l'ai découvert, je me rappelle, c'était à l'époque sur Green Arrow, où je l'avais découvert avec Sorrentino. Puis au fur et à mesure, je l'ai suivi un peu partout. Là concrètement, je sais pas trop c'est quoi la dernière chose que j'ai dû lire de l'émir. Ça doit remonter déjà un petit bout de temps. Mais il me semble qu'il avait participé à une catastrophe pour moi qui s'appelait...
Human versus X-Men.
Voilà, c'est ça. Où il était avec Charles Soule, d'ailleurs, il me semble.
Très, très dur. Ouais.
Alors, autant Soldman Logan est génial, autant ça, c'était incompréhensible.
C'était infâme.
C'est sûr. Bah, le Green Arrow, c'est clairement ce qu'il a fait exploser aux yeux du grand public, du mainstream, hein, puisqu'il a quand même repris le personnage de Green Arrow. Il a fait quelque chose d'assez fou avec Sorrentino, l'espèce de duo mythique qui est né avec Soren. Voilà. Et puis, c'était le moment où la série télé aussi explosait et qui attirait quelques gens, malgré tout, quand même, vers ce personnage-là qui était moins connu, même si très important dans l'univers. Et voilà, c'est ce qu'il a fait exploser et qui fait que maintenant, bah ouais, il peut un peu faire ce qu'il veut et que...
Alors, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'un dé, mais la dernière chose que j'ai pu lire de lui en VF, c'était le début de sa série Bloodshot Reborn de Valiant Comics.
C'est super bon, ça.
Ouais, qui est vraiment bien. Et, excellent. Et bah, pour le coup, c'est la première fois que je sortais, on va dire, entre guillemets, un peu de l'univers mainstream de DC et Marvel. Et force est de constater que déjà, l'Event The Valiant qui m'a permis d'entrer un peu justement dans l'univers Valiant,
bon,
puis la série Bloodshot sont vraiment géniales.
Le Bloodshot tome 3 reste l'une des meilleures sorties de ces dernières années, hein, je le maintiens.
En mode...
En mode Mad Max.
Ouais. Bah oui.
Cette page du plongeon inversé par Lewis LaRosa...
Oh là là. Un gros artiste de chez Valiant, Lewis.
Alors, Boris, tu n'as rien prévu d'aborder spécialement, j'ai quand même une question à te poser. Alors, ce Justice oui. League de Christopher Priest.
Eh ben écoute, j'ai commencé à lire et ça change. ça change de Hitch.
Ah oui.
Je t'avoue que j'ai tenu au moins 20 numéros à peu près sur la série VO avant de totalement déconnecter. Parce que j'en pouvais plus de ces invasions extraterrestres à répétition.
Moi, j'avais du mal à
Et
accepter
puis
ça.
même les dessins, j'avais l'impression qu'il n'y était plus du tout,
Rappelle-toi du
qui crayonnait.
premier numéro, cette Wonder Woman de l'angoisse.
Ah ouais, non, mais c'était vraiment enfin ni fait ni à faire. Et puis surtout quand on sort d'un Dark Side War avec Geoff Jones
Ah ouais.
qui concluait tout son arc sur les New
Fabok.
52,
C'est Fabok,
ça a
c'est
été.
ça? Ah, Jason
Ouais, avec
Fabok.
Fabok, ouais, avec Jason Fabok au dessin. C'était vraiment le plongeon. Et grosse, grosse déception début Rebirth pour moi, c'était Justice League et je comprenais pas. Bon, on met Hitch, c'est quand même, ça reste quand même un grand artiste, mais je ne
Oui.
comprenais pas qu'on ait une série aussi médiocre, alors qu'elle est censée servir quand même de vitrine à l'époque où on était quand même en pleine promo pour le film Justice League. Et
Moi,
pour
j'ai
moi,
pas
ça me donnait
compris.
pas du tout envie de continuer la série, et puis encore moins de me dire, bah, j'espère que le film il tiendra pas de la série, parce que c'était nul quand même, faut le dire.
Mais bien sûr, ce que j'ai
C'est de la
surtout pas
frustration, hein, mais
ce que je
donc
n'avais
là j'ai
surtout pas compris à
repris.
l'époque, c'est pourquoi, alors qu'il venait de commettre du JLA, on lui a confié Justice League.
Bon, je sais
Quand
pas.
même, venait de commettre un truc quand même, c'est assez dramatique déjà. Son JLA, c'était une
Ah, c'est
infamie totale.
ignoble.
C'est
Et
ignoble.
je vais pousser même plus loin. Je ne comprends pas qu'on refile Justice League à Scott Snyder. Alors, pour moi, il a
Oh,
massacré Batman ces
attention,
dernières
tu vas
années.
froisser
Et,
Anthony.
ouais, je sais bien, mais pour moi, Batman Metal, c'est pas un succès du tout. Et malheureusement, sur le Star Batman, s'il n'avait pas existé, ça n'aurait rien changé pour moi. Enfin, je trouve que. Je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire à l'époque des New 52. On lui a confié d'autres choses chez DC pour Rebirth. Mais malheureusement pour moi, il a fait le tour sur le personnage depuis bien longtemps et il nous tricote des trucs. Enfin bon, je sais pas, je comprends pas non plus l'intérêt. Alors que, bah, comme tu dis, là, je découvre le début du run de Priest sur Justice League et puis là, il s'avère que c'est bon, quoi. Et c'est dommage de se dire qu'un artiste qui fait un run bon, bah, il est voué de toute façon à laisser sa place à quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, fait du médiocre. Et c'est un peu. Bah, après, c'est mon ressenti. Hein. C'est pas pour me mettre tout le monde à dos, mais j'ai une dent contre Snyder. Autant je l'adore sur plein de ses récits, mais pour moi, c'est quelqu'un qui pitche très bien les histoires, mais qui n'arrive pas à les solder, quoi. Donc, pour moi, c'est aussi frustrant que, bah, que son The Wake, qu'il avait écrit avec Sean Murphy, où tout le début est hyper prenant, et puis la fin, bah, ça tombe un peu, tout retombe un peu à l'eau,
Tous ses
si
débuts
on peut
d'arc
dire ça comme
sont
ça,
pas
ouais.
mal. Hein. Son début d'endgame était très sympa. Son début de presque tout est super. Et en fait, bah...
Exactement, ou je peux dire aussi c'est American Vampire qui ont stoppé du jour au lendemain, où pourtant l'histoire de base était quand même super sympa, et
Le deuxième arc
non.
de All-Star Batman est très solide. Hein.
Bah, j'étais trop refroidi par le premier pour tenter la
Ouais,
suite.
le premier,
Je peux
c'est
pas.
vraiment incompréhensible. Mais le second, sur ce comment dire, ce PowerPoint, ça a été éclaté des vilains avec un petit fil rouge au milieu. Franchement, c'est vraiment pas mal.
Et puis moi, le premier arc, non seulement tu mets Snyder et en plus tu mets Romita Junior avec, excuse-moi, mais.
Hein. Ouais, c'est
Bah,
dur.
bienvenue au club. Ouais, Romita Junior, je peux plus.
Mais j'ai arrêté Superman parce que c'était lui, hein, à l'époque où il était avec Geoff Jones, quoi. Je pouvais pas, je ne le pouvais pas.
Après, il a encore un côté rétro qui plaît à une certaine partie du lectorat. Donc, je peux comprendre qu'il continue à le mettre. Hein, mais bon, on a des mecs comme Gary Frank qui arrivent à découper. Un peu avec un peu un côté rétro sur du Doomsday Clock, donc et pourtant ils ont un très très beau dessin, et à côté de ça on a
Ah, il
du
n'y a pas Gary
Romita.
Franck qui veut. Non,
Ah, n'est pas Gary Frank qui veut ça, c'est
c'est
sûr.
clair. C'est clair. Et puis du coup, là, pour revenir quand même sur le Justice League de Priest, enfin voilà, là, enfin, toi qui commences du coup à le lire aussi, enfin clairement, on sent les graines de Doomsday Clock et du statu quo vis-à-vis de la population, etc., qui s'installent là.
Eh ben, c'est ça, c'est que tu lis le premier numéro de Doomsday Clock, tu te dis, bon, bah, apparemment, déjà, les gens ont un peu une dent contre la Justice League, on sait pas trop pourquoi, puisque actuellement, en VO, bon, bah, on était en plein dans Batman Metal, donc on était loin de tout ça, on va dire. Et moi qui avais arrêté, du coup, la série Justice League, je comprenais pas trop pourquoi on en était arrivé là, et en même temps, dans la façon dont Geoff Jones a teasé l'événement. Si je me rappelle bien, il avait dit les événements de Doomsday Clock prennent place un an après ce qui sortait actuellement en VO.
C'est ça.
Donc, de façon à ce que quand le 12e numéro était censé arriver, toutes les séries amèneraient au début de Doomsday Clock à ce moment-là. Bon, il s'avère que le rythme de parution a changé, on est parti d'un numéro mensuel à un numéro bimestriel, je crois, parce que c'est un
ça,
numéro
tous les
tous les
deux
deux
mois,
mois
tous les
maintenant.
deux mois. On va partir sur un Doomsday Clock qui va durer plus de 18 mois.
Voilà, donc l'event est étalé. On ne sait pas trop si entre-temps, en interne, DC n'a pas voulu rajouter des choses en plus avec du coup le mini-event, on va appeler ça comme ça, No Justice, écrit par Snyder,
Non, c'est pour
qui suit
temporiser, ouais.
du coup, ouais, pour temporiser. Et on ne sait pas. J'espère que par rapport à l'idée de base, déjà en soi, DC ne s'est pas un peu emmêlé les pinceaux à rajouter un peu des choses. Par contre, oui, en effet, bah, pour en revenir à la question, le Justice League, on est en plein dedans. Donc, et puis c'est bien de voir cette facette un peu de la Justice League où jusqu'à maintenant, on les voyait un peu comme, bah, comme des dieux. Et pour ça, du coup, ils sont intouchables, ils n'ont pas de défauts. Même dans les plus grandes difficultés, ils répondent toujours présents. Et là, c'est bien de voir ce petit côté avec le Batman fatigué qui ne dort pas assez, qui peut être amené à faire des choix ou oublier certaines choses qui ont des conséquences déjà plus ou moins, enfin, plutôt graves même, on va dire. C'est pas plus ou moins, c'est même
Carrément.
sûr. Mais non, c'est vraiment intéressant ce côté. Et Price, je ne le connaissais pas du tout pour le coup. Je crois que c'est le scénariste de la série Deathstroke, c'est ça?
Deathstroke, ouais.
Ouais. Dont on m'a dit beaucoup de bien, apparemment.
C'est vraiment la même
C'était
narration.
d'ailleurs là.
Enfin, vraiment, quand tu lis les numéros, les singles de Justice League, t'as l'impression de voir la construction d'un single de Deathstroke. Quoi. Pareil, avec les petits encadrés, avec les titres d'espèces de chapitres à l'intérieur des singles, etc. C'est
Ouais,
vraiment pareil,
comme
quoi, la
sur
même
Batman.
narration.
Moi, j'avais lu le Black Panther. Et c'est pareil, en fait, la plupart du temps, tu comprends rien au début, je trouve, et ça s'imbrique au fur et à mesure. Enfin, du moins sur Black Panther, c'était comme ça, et c'est vraiment très astucieux comme narration,
Un peu de ça
je
sur
trouve.
Deathstroke aussi, ouais. Et du coup, Justice League, ça y est, bah, je suis encore. Là, décidément, c'est la soirée où je perds le fil de tout, quoi. C'est terrible. Bon, bah tant pis, non, c'est pas grave.
Ouais, non,
Voilà.
mais c'est une bonne surprise. En tout cas, ça m'a permis de renouer un peu avec le titre de Justice League, bon, bah, qui va se terminer de toute façon d'ici un mois ou deux, si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas, au niveau
Bah là, ça
des
se termine en
précommandes.
mai, parce qu'en mai, Snyder arrive avec son autre Justice, et puis derrière, il reprend la série. Donc là, c'est la fin.
Ouais.
Hein. Là, c'est les derniers.
Donc là, ouais, voilà, ça sera terminé pour ce volume, on va dire, entre guillemets. Et bon, on verra. Hein, je vais quand même prendre les premiers numéros de Justice
Oui,
League de
je
Snyder,
les ai
histoire
lus.
de voir,
Normalement, il
mais.
fait ouf. On ne sait jamais, une bonne surprise, on n'est pas à l'abri. Et
Ça
puis
va être
voilà,
très bien.
ce que j'aime aussi dans cette histoire-là de la Justice League, c'est qu'on voit à quel point ils peuvent en chier, parce que vraiment ils en bavent, mais comme des damnés face à des humains. Ils
Ah
sont
bah
pas en train d'affronter
c'est toujours cette question
ils sont pas en train
pour moi
d'affronter des
revenait.
super-dieux, des créatures devenues de je ne sais quelle planète ou de trucs, machin. Non, non, c'est une menace bien terrestre, bien humaine, etc. Et ils en bavent vraiment, quoi. Ils sont en train de se faire démolir sur tous les plans.
Après ça, ouais, ça a été souvent, il me semble, le sujet, un sujet qui était remis sur la table par rapport aux super-héros, donc. Comment les contrôler, comment les gérer. On sait qu'on avait eu déjà une histoire de recensement grâce à Civil War à l'époque avec Mark Millar, et ainsi de suite. Et on a souvent ce thème qui peut revenir. Donc,
Tu voudrais
est-ce
donc dire
que.
que qui nous garde de nos gardiens?
Voilà, c'est ça, exactement.
C'est ça.
Non, mais le fait d'avoir des super-pouvoirs, est-ce que ça nous dispense vraiment d'être au-dessus des lois
Non, et puis
Même
vraiment.
si on est censé servir pour le bien de tous, hein, mais et donc c'est bien de voir un peu ce côté où ils sont ramenés très terra, ouais, ils sont ramenés par on va dire, à la réalité par les conséquences de certains de leurs choix, quoi.
Et puis
Et
par tout ça,
finalement, c'est un.
d'un plan très bien huilé et pas d'un mec qui est surpuissant. C'est vraiment un plan mécaniquement bien huilé pour les faire tomber et ça marche. Voilà.
Alors pour l'instant, j'ai pas encore fini l'arc, donc je te dirai mon ressenti final quand j'aurai fini, mais parce que je sais pas jusqu'à quand
Après,
il traîne, je sais que.
je vais pas terminer non plus. Hein. Il me reste encore un
Ouais.
single VO.
Une petite interruption de l'émission pour vous signaler qu'un problème technique nous a amputé de quelques minutes de l'enregistrement. Durant ces quelques minutes, nous mettions un terme à la chronique de Justice League par Christopher Priest et j'introduisais pour ma part le roman dont j'allais parler, à savoir Supernormal de Robert Mayer. parmi les fans de comics et les scénaristes de comics, parce que c'est vraiment le roman qui a lancé dans la tête, dans l'esprit des scénaristes, etc., cette idée de déconstruction des héros. Puisque voilà, il y a presque, et c'est Grant Morrison, Monsieur Grant Morrison lui-même, qui le dit dans l'introduction qu'il a fait pour ce roman, qu'il a écrit une introduction, tout un petit truc en 2004. Et puis il y a aussi Kurt Busiek aussi, qui parle vachement bien de l'impact qu'a eu ce bouquin sur l'industrie des comics et la façon de penser les héros et de les ramener justement sur la déconstruction et des choses un peu plus sombres. C'est aussi à cause de ce roman Super Normal qui nous parle d'un super héros. C'est David Brin Clay, le personnage principal, qui est l'ancien plus grand super-héros du monde, clairement une parodie de Superman, hein, jusque dans le nom de ses ennemis, etc. Il y a un équivalent à Mr. Miss Ziplik, avec toute une suite improbable de lettres, bref. Ce super-héros, il a pris sa retraite. Maintenant, il vit en banlieue, il est marié, il a du bide, il perd ses cheveux. Il a même des problèmes au lit, il a des problèmes avec ses crédits. Enfin, voilà, il est empêtré dans la vie de monsieur et madame tout le monde. Lui aussi, il vieillit, lui aussi, il a une vie de merde. Mais il se trouve qu'à un moment, il va se passer quelque chose à New York. Il va y avoir des événements... espèce de montée du crime soudaine, un peu inexplicable, comme si tout était fait pour le faire ressortir de sa retraite et le faire revenir. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est pour le tuer ? Est-ce que c'est pour qu'il reprenne la lumière, pour l'aider ? On ne sait pas trop, mais en tout cas, comme si tous ces événements étaient faits pour le faire ressortir. Ça se passe dans les années 70 en Amérique, donc le titre Super Normal, il a à la fois l'écho de ce héros qui est redevenu normal et qui va redevoir devenir super, mais aussi l'Amérique qui est plus aussi grandiose qu'avant et qui va passer de super puissance qui écrase tout à pays super normal lui aussi. Et il y a aussi ce parallèle qui est intéressant par rapport à l'histoire américaine, mais voilà, vraiment cette espèce de parodie de Superman. Alors c'est pas, je dis parodie dans le sens on prend Superman et on prend tous ses codes, les noms de ses ennemis, etc., et on les passe à la moulinette pour en faire quelque chose de très proche sans forcément se moquer, hein. On n'est pas dans la parodie qui se moque, là on est vraiment dans le pastiche un peu, enfin voilà,
un genre de motif.
Si on veut, je saurais même pas comment le dire. Alors, je ne l'ai pas encore terminé, il me reste encore quelques chapitres avant d'arriver à la fin, donc je ne sais pas encore comment ça se termine tout ça. Mais en tout cas, c'est super bien écrit, et effectivement, le fait qu'il sorte que maintenant en France, qu'on n'avait pas forcément connaissance de ce roman, nous français, on a déjà lu tous ces comics des années 80, 90 surtout, et début des années 2000, et on a l'impression que ce roman... fait des petits clins d'œil à ces trucs-là, alors qu'en fait, non, il est sorti 20 ans avant. Et effectivement, ouais. Je comprends maintenant pourquoi on dit que ça a vraiment changé la façon de penser les super-héros pour les scénaristes américains.
Et combien de pages, tu sais, à peu près ?
Alors, combien de pages ? Alors, moi, j'ai la version poche qui fait moins de 400 pages. Je fais 380. Alors, je l'ai dans la main, donc je vais te dire 382, exactement. Okay. Chez J'ai lu pour 8 euros. Enfin, voilà.
Cool.
Et non, franchement, je suis passé dans le rayon roman, et il y avait cette couverture avec cette espèce de foule de personnes à chapeau, et puis il y a lui, ce mec, cette espèce d'ersace de Superman avec un gros bide au milieu de toute cette foule, et je me suis dit, oh, ça a attiré mon œil, j'ai regardé, j'ai lu derrière et tout, j'ai lu les premières pages, Grant Morrison 2004, oh putain, il a écrit une préface et tout, ouais, bon, je vais prendre, et c'est très 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 sympa, c'est vraiment très bon. Et je comprends le statut de culte qu'il a, et je ne comprends pas pourquoi on a attendu 40 ans pour le sortir en France.
Oui, effectivement.
Donc voilà, on terminera sur une note comics, mais sans images. Voilà, c'est vraiment quelque chose à découvrir, Super Normal de Robert Mayer. Le titre VO, pour ceux qui ont envie de s'affronter, de se coller vraiment au titre, je sais pas si je vais le trouver, évidemment, Super Folks.
Voilà. D'accord.
Et bien voilà qui nous amène à la fin de ce 270e épisode de Comic Stories. On va essayer de tarder un peu moins avant de faire le 271. On a quand même accéléré le rythme par rapport à notre dernière émission et ce qu'on avait fait avant. On va essayer de revenir progressivement, surtout qu'à chaque fois, on a finalement pas mal de trucs à se dire. En tout cas, c'était bien sympathique, ma foi, de vous retrouver encore ce soir et de t'accueillir aussi, Boris.
Merci à vous pour l'invitation.
Pour cette discussion. N'hésitez pas, je vous disais, à nous laisser des petits commentaires sur les lectures dont on vient de vous parler et puis aussi sur notre question principale du jour, VF, VO. Et l'espèce de changement que nous, on est en train de vivre, est-ce que vous aussi, et comment il se matérialise. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. En attendant, évidemment, vous pouvez nous suivre sur comicstories.fr, sur notre page Facebook, sur Twitter également. N'hésitez pas. À bientôt. Aujourd'hui, vous vous foutez.
Ouais.
Les gens, ils peuvent se faire foutre. Ok. Allez, je coupe.